Revenons au fait par Régis Debray. L'histoire mise à nu.
Bonjour Régis Debray.
Bonjour Sandrine Trenet.
Allons au fait, Régis Debray. Allons au fait, c'est le nom sous lequel vous allez être avec nous, avec nos auditeurs, pendant 2 semaines, à compter de ce premier lundi du mois de juillet. Et c'est une histoire qui ne commence pas comme les histoires commencent habituellement. Alors peut-être on va expliquer à nos auditeurs comment tout ça s'est fait. Nous allons rentrer en coulisses. Alors que s'est-il passé dans les coulisses, Régis ?
Bah, écoutez, un jour... On parlait de choses et d'autres, et je vous ai dit l'envie que j'avais à la fois de récapituler un peu tous les décennies de travaux plus ou moins universitaires que j'avais fait, et surtout l'envie de les clarifier, l'envie de parler simplement.
Et la radio, ça permet de clarifier ?
Oui, parce que ça force à faire simple, et vous savez, à respecter... ce que Bergson appelait l'essence de la philosophie, qui est l'esprit de simplicité. Il faut se faire comprendre, on n'a pas de notes en bas de page, et on doit, faire bref, concis et clair, et rendre la raison populaire, c'est exaltant.
Alors vous m'avez dit, presque tout de suite, il y a 2 sujets sur lesquels j'aimerais... clarifier mes positions. Alors, quels sont-ils, ces 2 sujets ?
Mes positions ou mes conclusions. Je ne vais pas profiter du micro que vous m'avez aimablement offert comme d'une tribune. Non, je voudrais sortir du flou des mots et aller au fait en ce qui concerne l'histoire et la religion. Le fait historique d'abord. Qu'est-ce que c'est que l'histoire de l'art, qu'est-ce que c'est que l'histoire de l'Europe, qu'est-ce que c'est que le roman national ou l'histoire des héros. Bref, essayer de poser des questions à ces grands fétiches comme ça. Et puis, qu'est-ce que c'est que le fait religieux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut entendre par religion, qu'est-ce qu'une religion, qu'est-ce que le sacré, qu'est-ce que la croyance, qu'est-ce qu'une secte, enfin voilà. Vous savez... Les mots sont flous, les faits, ils sont précis, rigoureux, et il faut adapter notre vocabulaire à la réalité des choses. Donc ça suppose, en amont, beaucoup de travail, et en aval, beaucoup d'audace pour rendre simple ce qui est complexe.
Vous nous dites, ce ne sont pas des positions, ce sont des conclusions, mais vous n'allez pas nous faire croire que ces émissions pourraient être des conclusions de quoi que ce soit.
Ah ben c'est, pour moi, oui, en tout cas, c'est un peu, je dirais, le résumé de tout ce que j'ai pu étudier pendant plusieurs décennies. Je ne voudrais pas que ce soit provoquant, même si c'est parfois un peu acide ou, disons, décalé. Mais car c'est tout de même le résultat de beaucoup de recherches. Je suis président d'honneur de l'Institut européen en sciences des religions et j'ai réfléchi parfois sur l'histoire que j'ai même parfois traversée. Donc je me dis, au fond, c'est bien si on faisait le point sur tout ça, au sens optique du terme.
Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à cette proposition « Allons au fait ». Alors on entend bien qu'il n'y aura pas de gras, qu'il n'y aura pas d'adjectif superflu, qu'il n'y aura pas d'adverbe dont on pourrait fort bien se passer. Nous allons donc aller au fait, aller aux mots, aller à vos mots. Alors comment ça va se passer cette première semaine ? Vous nous parlez de quoi ?
Eh bien je vais vous parler de l'histoire. Parce que l'histoire aujourd'hui domine la scène culturelle, les historiens aussi, et j'aimerais qu'on comprenne que ce mot d'histoire n'est pas seulement une solution, ça pose beaucoup de problèmes. Il y a plusieurs sortes d'histoire. On fait souvent l'histoire de ce qui n'a pas d'histoire. Il me semble que l'art est l'un de ces cas, et le politique aussi. Donc, essayer de rendre un peu problématique ou interrogatif ce qui apparaît souvent comme des solutions miracles. Faire l'histoire d'eux, ça va pas de soi. Quelle histoire? Et pourquoi faire?
Donc ça, ce sera toute cette semaine de 11h à midi. Et puis, la semaine suivante, nous nous attaquerons à un autre fait, vous l'avez dit, au fait religieux.
Bah, c'est un peu le grand fait d'actualité, je veux dire, le grand fait contemporain, d'où procèdent aujourd'hui beaucoup de choses et d'événements. Donc, il me semble que nous avons, pour parler de tout cela, une langue très, très floue, très laxiste, et que nous n'étudions pas bien le fait religieux tel qu'il se présente ou tel qu'il se déroule depuis déjà 3 ou 4 000 ans sous nos yeux, si j'ose dire. Et donc, c'est un peu, comment dirais-je, nettoyer les têtes, c'est-à-dire faire le clair, réfléchir aux mots que nous utilisons sans trop y penser, comme celui de sacré, celui même de religion. Qu'est-ce que c'est qu'une religion? Il est temps tout de même de se poser la question. Et je crois que ça peut intéresser aussi bien nos hommes politiques que nos économistes, ou tout simplement ce qu'on appelle l'homme de la rue.
Eh bien, Régis Debray, il est temps, il est l'heure. Allons au fait, vous avez la parole.
Merci Sandrine. L'histoire des héros et son efficace. Il y a dans le genre histoire plusieurs espèces, la savante, la philosophique et la récréative. Et la plus précieuse de toutes, à mon sens, parce qu'elle a des effets pratiques et dynamiques, c'est encore l'histoire légendaire. Car c'est la seule qui met en mouvement les hommes d'action. Qui ne se raconte pas des histoires, ne fera jamais l'histoire. Et pour défendre cette idée, je ferai appel à témoins, et mon grand témoin sera Charles de Gaulle, 1890-1970. Ce qu'on appelle la grande histoire, vous savez, elle peut aussi bien envoûter que dégoûter. C'est une sorte de fantôme ventriloque auquel chaque homme d'esprit a prêté l'un ses phobies, l'autre ses lubies, Valéry par exemple. Il y voit le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait élaboré. Il enivre les peuples, rangeant de faux souvenirs et rend les nations amères, superbes, insupportables et vaines. Bon, vous avez compris, Valéry est membre de ce jockey club des lettres françaises qui ne fraye pas avec l'événement. Et dans ce jockey club, vous avez si mes noms, Boris Vian, Claudel, Proust et les surréalistes même. Proust par exemple. Il ne s'occupe que du temps perdu ou retrouvé. Oui, mais c'est un temps où l'histoire des hommes n'a rien à faire, où la guerre de 14-18 ne fait qu'une ombre en fond de toile. Et prenez André Breton, tout féru qu'il ait été de révolution, on a dit de lui qu'il regardait l'histoire tomber au dehors comme la neige, avec l'indifférence qu'inspire aux nobles âmes un épisode climatique parmi d'autres. Quant aux faits divers et aux rêves, ils sont indifférents aux résultats des élections. Et voilà donc le clergé poétique de l'inactuel. Il existe et il n'a peut-être pas fait le mauvais choix, si l'on en juge par la place qu'il occupe dans notre panthéon. Elle est beaucoup plus grande que celle des engagés, des Romain Rolland, Martin Dugard, Jules Romain, Jean-Paul Sartre. On serait presque tenté de dire que l'histoire est un lieu à éviter pour les ouvriers des belles lettres aspirant au Lagarde des Michards. Mais si vous demandez à un Peggy, par exemple, ce qu'il faut penser de notre fée Carabosse, il nous convaincra que la muse Clio, avec sa sombre fidélité pour les choses tombées, est indispensable à la commune humanité. Je suis plutôt de ce parti-là. Mais je ne vais pas rentrer dans cette querelle indécidable. Je voudrais d'abord rappeler qu'il y a plus d'une histoire dans l'histoire. Moi, j'en vois trois. Trois et qui se détestent l'une l'autre, mais sans trop se le dire. Alors, la première, C'est l'aîné de la famille, bien sûr. C'est l'histoire comme objet d'étude, pointilleuse et patiente. Celle des fouilleurs d'archives, de Thucydide à Brodel. C'est la discipline qui s'enseigne ou s'enseignait en classe. C'est l'histoire des professeurs. Alors, nous connaissons ces oublis et ces lacunes. On en parle à la une des journaux. C'est assez connu, je ne vais pas y revenir ici. Disons, aux ministres et aux pédagogues de prendre les mesures qu'ils s'imposent pour repriser les trous. Ils sont payés pour cela. Il y a une deuxième histoire qui regarde les événements du haut d'une terrasse, si vous voulez. C'est l'histoire objet de méditation. C'est l'histoire dont on attend des leçons, des oracles, une préscience du futur. C'est l'histoire des philosophes. De Vico à Karl Marx, en passant par Hegel. C'est, je cite, l'histoire de l'humanité comme un seul peuple. La grande journée de l'esprit qui va d'est en ouest. La Bible de l'humanité. L'immense Auguste Comte a même organisé sa religion de l'humanité autour d'un panthéon de grands hommes pour nous rappeler, nous les petits, à nos devoirs. Mais enfin, voilà un fantôme qui n'a ni couleur ni saveur et qui est un peu aux histoires nationales ce que l'espéranto est aux langues naturelles. Disons que ça manque de corps et de couleur, ça manque de conteur et de contour, ça n'a pas d'hymne, ça n'a pas de drapeau. Il faut saluer au passage ces regards d'aigle, mais observons que l'histoire que ces philosophes ont fabriquée n'a fondé aucune lignée, n'a pas échauffé les esprits et n'a pas réchauffé les cœurs. Zéro dégagement d'énergie. Et enfin, la petite dernière, la plus populaire, la plus sympa, l'histoire objet de consommation. Celle des animateurs de télévision, des sites classés et des promeneurs du dimanche. Alors, ça va du son et lumière en région au timbre commémoratif, du chinage des greniers à la visite des palais de la République lors des journées portes ouvertes. En un mot, cela s'appelle le patrimoine. C'est le patrimoine qui nous a fait passer, disons, du mémorable au mémoriel, si vous voulez, ou d'un bien public, d'un bien national, un bien de famille, à forte valeur marchande. Celle-là, c'est une histoire en miettes, de bon rapport. Ce tourisme du souvenir, il nous tient chaud au cœur. Disons des racines et des ailes. Ça suscite en nous plus de curiosité que d'inquiétude, et ça ne demande de notre part aucun lendemain. Alors, chaque variante a sa place réservée. Les impasses du manuel scolaire s'ameublent nos conversations. La philosophie de l'histoire s'ameuble nos bibliothèques. Et les amours clandestines de Marie-Antoinette s'ameublent nos longues soirées d'hiver. Personnellement, moi, les trois genres m'enchantent. Et je ne vois rien d'incompatible entre le faire savoir, le faire croire et le faire voir, entre les historiens de métier, les faiseurs de systèmes et les entrepreneurs de spectacle. Je crois qu'il y a de l'avenir pour ces trois lignes de production. La demande sociale est telle que l'offre s'en renouvelle chaque jour. Mais c'est pas de cela que je voudrais vous parler ce matin. Je voudrais vous parler d'une autre invention de l'esprit qui est aujourd'hui à la peine et qui en a beaucoup poussé à l'action la sœur du rêve. Je veux vous parler de l'histoire comme objet d'imagination, celle qui met les hommes en mouvement, du moins les plus ambitieux d'entre eux. Elle est invérifiable, d'accord, mais elle a beaucoup plus d'effets pratiques que l'histoire savante. Elle est plus vitaminée et moins considérée que celle qui s'attache à débusquer les légendes. C'est une histoire qui donne du cœur au ventre, qui élève ses adeptes au-dessus d'eux-mêmes tout en nous promettant des larmes et du sang. Disons, c'est l'histoire qui ressurgit au Kremlin en 1941 quand la Wehrmacht est dans les faubourgs de Moscou, qui ressurgit à Londres, à Westminster en 1940 quand la Luftwaffe est au-dessus des têtes. C'est celle, si vous voulez encore, qui conduit un Bonaparte en Égypte parce qu'il a Alexandre le Grand en tête. Et c'est celle qui pousse un sous-secrétaire d'État à Londres, parce qu'il a Carnot ou Clémenceau en mémoire, à s'adresser aux Français. C'est celle qui pousse un Argentin dans une jungle bolivienne infernale, parce qu'il se souvient de San Martín et de Bolivar. C'est du rêve éveillé peut-être, et qui ne doute de rien. Mais il fait marcher parce qu'il marche à l'admiration et non à la débine. Au frisson plus qu'à la logique, au mythe plus qu'à la loupe. Et c'est cette histoire qui pousse dans le dos un certain nombre de personnes, Napoléon, De Gaulle ou Guevara, des personnes qui ont vocation à devenir eux-mêmes des mythes après leur mort. Ce que je voudrais montrer, c'est que, au fond, pour faire l'histoire, il faut se raconter des histoires, et même des contes de fées. C'est en quoi, d'ailleurs, les écrivains sont plus sensibles à cette fantasmagorie que les intellectuels, peut-être parce qu'ils sont plus doués pour les affaires de cœur, et que, chez eux, l'émoi, l'émotion, est plus importante que l'idée. Et comme ce sont plutôt les dames, dans une tradition peut-être en ballotard, qui inspirent aux messieurs des émotions, on peut donner pour pseudo à cette histoire, comme je l'ai fait, le nom de Madame H. Ce n'est pas ma faute si la muse de l'histoire, Clio, est du sexe féminin. En l'occurrence, plutôt du genre méduse ou furie, hein, plutôt que grande sœur aimante. Madame Histoire, avant l'arrivée du Christ, avait une vilaine gueule de fatalité. Elle avait la gueule des Hérinies, des bienveillantes, par antiphrase. Plutôt le genre virago, avec torche dans une main et couleuvre dans l'autre. Voilà, c'était l'accent monotone du destin, qui, en Grèce ou à Rome, jadis, favorisait plutôt un certain sentiment d'irrémédiable, plutôt que d'un pari à gagner ou d'une aventure à poursuivre. Alors, oui, la condition historique, c'est une invention occidentale. Mais croyons bien qu'elle est d'une apparition récente, comme d'ailleurs la notion même d'événement. L'histoire comme entonnoir des destinées individuelles, Pascal l'ignorait. Il attendait son jugement de Dieu seul. Voltaire aussi, au fond, pour qui l'histoire n'était qu'une façon astucieuse de retourner le passé contre le présent. C'était un genre littéraire, disons. C'est le romantisme qui va faire éclore ce champ magnétique qui apparaît sur notre sol un peu, je dirais, vers la fin du XVIIIe et qui, je crois, s'est éteint à la fin du XXe. D'après Julien Gracq, la sensation d'un temps coulant à plein bord avec toute sa charge orageuse de destin, c'est une phrase de lui, elle serait née quelque part entre les confessions de Rousseau et les mémoires d'outre-tombe. Disons, elle disparaît avec Malraux. Bon, si l'on songe à tout ce que cette majuscule a suscité en fait de grandiloquence, de propos emphatiques et pompiers, d'arrogance provinciale, de forfanterie un peu bébête, style j'y étais, on ne se plaindra pas trop de sa disparition. Les allocutions présidentielles y ont gagné en sobriété. Et tant pis pour la passion française des grands souvenirs, les momeries du culte républicain, ce sont des expressions de Karl Marx, et qu'il brocardait déjà en son temps lorsqu'il demandait aux insurgés de 1848, je cite, de remiser au magasin des accessoires les oripeaux de l'Antiquité. Peut-être nous avons un peu trop suivi son conseil. Mais Marx était finalement, tout génial qu'il soit, un universitaire. Il aurait sans doute moqué Staline quand il a ressuscité Kutuzov, Alexandre Nevsky et Ivan le Terrible pour galvaniser la Russie éternelle, comme le sous-commandant Marcos au Mexique a réveillé Zapata, comme Chavez au Venezuela a réveillé Bolivar, comme le Che a réveillé San Martín et comme Michelet a exhumé Jeanne d'Arc. Ne l'oublions pas, ce ne sont pas les masses qui font l'histoire, c'est la foule sentimentale. Et les philosophes lui ont toujours tourné le dos. Oui, là je parle du romantisme. Mais cette renaissance à retardement, elle eût été impossible. Il faut commencer par là, par le commencement, la révolution chrétienne. C'est elle qui a donné à l'histoire récidiviste de l'iniquité, si vous voulez, le sens d'une flèche. Avec le christianisme, le temps s'est mis à courir de la création du monde à la résurrection des corps et nous avons une sortie dans l'éternel retour. Autrement dit, on a converti ce qui était une tragédie où tout était joué d'avance en un drame, en un suspense. Et Peggy, notre poète historien, a encore ajouté de l'incertitude à cette marche en avant théologique sous garantie de bonne fin. Il ne voulait pas d'un temps à ses yeux capitaliste, celle du livret de caisse d'épargne. Il s'est inscrit en faux contre l'escalier qu'on monte et qu'on ne descend jamais. Non, il a mis un peu de tension dans l'histoire chrétienne du salut. Cette histoire qui est comme un toboggan, qui commence mal avec la pomme, mais qui finit bien avec le retour du Messie. Mais c'est tellement sous garantie de bonne fin qu'on peut à la fin s'endormir et s'ennuyer. Donc, Peggy a remis dans cette éternelle présence qu'il appelle une éternelle inquiétude. Et ce qui nourrit encore aujourd'hui notre inquiétude à nous, qui est l'inquiétude de vivre un présent indigne de notre passé, un présent qui déchoit et qui fait des choix, au fond, ce n'est pas l'histoire savante. Ce sont des icônes, des symboles ou des fables. Comme celle qui ouvre le premier chapitre des Mémoires de guerre de De Gaulle. Je cite, « Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le sentiment me l'inspire aussi bien que la raison. Ce qu'il y a en moi d'affectif imagine naturellement la France telle la princesse des contes ou la Madone aux fresques des murs, comme vouée à une destinée éminente et exceptionnelle. J'ai d'instinct l'impression que la Providence l'a créée pour des succès achevés ou des malheurs exemplaires. » Fin de citation. Ces phrases sont très connues. Mais vous avez entendu, affectif, instinct, image. Autant l'homme d'études doit oublier sa part d'enfance, autant l'homme d'action a intérêt à la garder bien au chaud. C'est sa botte secrète. Et au fond, c'est un galopin, c'est le petit Charles, qui a enjoint un général de brigade en 1940 de ramasser les tronçons de l'épée. Les forceurs de destin sont toujours un peu zinzin, vous savez. Et au fond, la résistance française s'est construite sur un esprit d'enfance. Que les adultes décorés et vaccinés de l'époque, tous les membres des 5 académies de l'Institut de France, ne pouvaient prendre au sérieux. La résistance est une entreprise à dormir debout. Et elle a dû beaucoup plus à Edmond Rostand qu'à Seignobos ou à Lavis. Vous savez, à l'âge de 10 ans, le petit Charles, il a vu l'Aiglon au théâtre. Il en est resté marqué. D'ailleurs, dans les Mémoires de guerre, vous ouvrez, il y a tragédie, comédie, vaudeville. Preuve que De Gaulle a emprunté au théâtre. Parce que le théâtre, ça faisait référence en 1940. Comme le cinéma, en l'an 2000, fait référence, sert de guideline au John Wayne en costume cravate de la Maison Blanche. Alors oui, la princesse des contes, c'est quoi? C'est de l'eau de rose. La Madone des fresques, c'est quoi? C'est de l'image pieuse. Et tout ça fait un mythe d'identification. Que deviendrions-nous, demandait Valéry, sans le secours de ce qui n'existe pas? Guillaume Tell, il n'a jamais existé. Mais la Confédération helvétique n'existerait pas sans lui, qui est un personnage de fiction. Vous voyez comme L'ex-religion de l'histoire empruntait naturellement les mots de son aînée chrétienne, providence, foi, piété, chemin de croix et passion. Oui, passion. Souffrance. Ernest Renan avait remarqué en son temps que la souffrance en commun unit plus que la joie. Les deuils ont une vertu de ressourcement, un pouvoir de rassemblement que n'ont pas les triomphes. Et au fond, c'est dans l'humiliation, c'est dans le chagrin, c'est au bord du gouffre que se réveille le sentiment d'une pente à remonter pour se remettre au niveau d'un passé accusateur. De Gaulle a d'ailleurs intitulé le premier chapitre des Mémoires de guerre « La pente ». Et Julien Gras, qui a vécu lui aussi les années 30 comme un long glissement le long d'un toit, évoque l'histoire comme dimension souffrante, inguérissable de la sensibilité. Inguérissable comme la mélancolie. À ceci près que le laudateur temporis acti, celui qui loue le temps passé, aujourd'hui on le cloue au pilori. Il faut bien comprendre que ce nostalgique, comme on dit, il n'est pas tiré en arrière, il est poussé en avant par ses souvenirs, vrais ou faux d'ailleurs. Le cinéaste portugais, Manuel de Oliveira, y traduisait « saudade », la tristesse, par « espoir ». Oui, il faut s'y faire. Il y a un lien inaperçu entre l'esprit d'aventure et le tempérament dépressif. C'est flagrant chez De Gaulle, qui a reconstruit la France entre deux coups de blouse au cri répété de « tout est fichu ». Et le colonel Lorenz aussi, en Arabie, était plutôt un mélancolique. Chamfort s'amusait de voir lier l'humeur mélancolique et l'esprit patriotique, comme si c'était incompatible. Non, ça c'est une bévue. Le proactif a toujours à ses côtés l'excitant d'un rétroviseur. Vous entrez dans l'avenir à reculons ou vous n'y rentrez pas. Et d'ailleurs, qu'est-ce que font les conservateurs d'aujourd'hui ? Sinon de passer leur temps à se moquer des nostalgiques. Et donc, ce passé d'Épinal qui démange et dérange, et que nous avons perdu en route au point que c'est une pavane pour une infante défunte qu'on entend un peu partout. Bien sûr, les vestiges de cette histoire restent inscrits dans le paysage. Il y a des colonnes de bronze, il y a des arcs de triomphe, il y a des monuments, il y a des bustes et des tombeaux. Et l'on va même jusqu'à dresser des tribunes, place du Panthéon, un peu machinalement. Mais en fait, le cœur n'y est plus. Le cœur n'y est plus. Et notre histoire, elle fait le grand écart entre la biographie individuelle d'un côté et, je dirais, la chronique générationnelle de l'autre, disons, les « Je me souviens de Pérec », si vous voulez. Mais l'histoire, comme appel aux armes, ne nous leurrons pas, cela ne vibre plus. Et pour plusieurs motifs. Le premier, assez inaperçu, me semble lié à la désacralisation de l'écrit dans notre environnement audiovisuel. Oui, remarquez bien qu'on parle toujours d'une page d'histoire, ou encore de l'histoire qui s'écrit sous nos yeux. La grande histoire serait donc un atelier d'écriture. Et tenir son rang sur cette scène, c'est toujours tenir la plume. Et d'ailleurs, les anthropologues nous le disent, les sociétés sans écriture sont réputées sans histoire. Un événement qui n'est pas chroniqué n'en est pas un. Il faut une inscription dans la pierre ou sur un papyrus. Il faut une insertion dans une liste dynastique, comptable, glorifiant des rois ou des dieux. L'histoire de France, disait Michelet, débute avec la langue française, soit avec le traité de Verdun. Elle prend fin quand l'usage s'empère et qu'une autre langue vient la coiffer au poteau, comme elle le fait en ce moment au fronton du théâtre de l'Odéon à Paris, où si vous vous promenez devant la nuit, vous verrez barré d'un slogan au néon, rayonnant, très fort, « The world is yours ». Bon, la langue écrite s'étiole, la lecture d'immersion s'effondre et nous en revenons aux images rayonnantes prélinéaires des temps paléolithiques. Alors oui, nous sommes passés, chacun le sait, de l'histoire bataille à l'histoire problème. Mais il y a un sérieux problème, dites-moi, quand on oublie la narration. La narration qui est toujours un compromis entre le verbatim et l'imposture. Un peu comme le vrai se mêle au faux dans nos propres souvenirs. L'histoire, je dis l'histoire avec un grand H, c'est quand la politique est chevauchée par le poétique. Quand elle est transfigurée en dactyle espondé par un certain Homère, une rixe intercitée dans un coin perdu, ça donne la guerre de Troie. Un chef d'État chevauché par les lettres, ça donne Charles de Gaulle. Un chef d'État chevauché par les chiffres, ça donne François Hollande. Quand le poète s'éclipse, remplacé par l'INSEE et l'IFOP, le contrôleur de gestion pique la casquette du capitaine et les chiffres ne s'en portent pas mieux. Et c'est vrai, les hautes figures qu'on garde en médaillon, elles avaient sans doute le don de la parole et de la tribune, mais toujours un peu graphomanes. Soit pour enjoliver rétrospectivement leurs exploits dans des mémoires, façon Jules César ou Churchill, soit pour s'attacher préventivement quelques normaliens sachant écrire, façon Saint-Louis ou Napoléon, disons les normaliens appelés Joinville ou Lascaz. D'où vient qu'une société post-littéraire n'est pas seulement post-héroïque, mais post-historique? Et d'abord, si tous les hommes sont égaux, pourquoi n'y en aurait-il de plus admirable que d'autres? Chacun n'est-il pas le seul juge de lui-même? Ce serait s'abaisser que de s'incliner devant tel ou tel. Bref, la dérision s'impose matin et soir, à la télé, à la radio, et ça ne pousse pas à l'émulation que d'avoir tous ces suspects qui ont pour nom Saint-Just, Guynemer, Jean Moulin. Parce que quand un biographe dans le vent ouvre leur dossier, c'est en général pour instruire à charge. Et l'historien sérieux, qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien, il va dire, il ne faut pas mélanger le réel et la fiction. Ben oui, mais le désir de mettre la main à la pâte, chez le Pékin lambda, ça se nourrit de ce mélange même. C'est bien lui qui incite à vouloir se faufiler dans l'orchestre, ne serait-ce que pour rivaliser avec les premiers violons. Dans un pays où la prise de la Bastille, c'est la faute à Rousseau, et si l'on tombe par terre, c'est la faute à Voltaire. On ajoutait en 1940, c'est la faute à André Gide et à Jean Cocteau. Eh ben oui, la fatwa lancée par l'université contre le roman national, je vous assure, ça ne va pas favoriser les vocations. C'est vrai, Walter Scott et Tolstoï sont d'assez mauvais historiens. Ouais, mais la victoire de Stalingrad et la bataille de Londres, elle leur doit beaucoup à ces mauvais historiens, à ces romanciers. N'oubliez pas que chez nous, en français, on utilise un seul terme, là où l'allemand et l'anglais en ont deux. Geschichte et History, ou Story et History, pour désigner le fait et son récit. C'est-à-dire que chez nous, quand vous oubliez le récit, eh ben vous allez gommer le fait. Alors, je vais vous dire, il y a un autre obstacle à la sortie des clous. C'est le bonheur. Le bonheur, qui est le deuil officieux de la gloire, disait Madame de Staël. Pour qui la gloire était le deuil éclatant du bonheur. Et c'est vrai, écoutez, il ne faut pas se le cacher. Les grandes destinées attirent de grandes haines. Alors on comprend que nos chefs de rang, principe de précaution, qui veulent se faire aimer plutôt que respecter, optent en matière d'adversité pour le régime de croisière, je veux dire le canard enchaîné. Oui, ils ont des colibets, caricatures, plaisanteries. Mais ce n'est pas la haine pour de bon. La haine pour de bon leur rendrait la vie impossible, alors que l'aimable désinvolture que suscitent nos ministres ou nos députés, ou les dédains très ordinaires qui suit un président ordinaire, ça ne les met pas réellement en danger. In medio stat virtus, la vertu est au milieu, au juste milieu. Et c'est vrai que les haines politiques fondent comme neige au soleil une fois le chêne abattu pour le bûcher d'Hercule. Mais avant le culte posthume, le héros de l'histoire doit souffrir. Sur la route de l'île d'Elbe, dans la calèche qui descendait la vallée du Rhône, Napoléon sut se déguiser en soldat de sa propre escorte pour ne pas se faire lyncher dans les villages qu'il traversait. Mais qui se souvient de l'ogre aujourd'hui quand il va aux Invalides? Et quel contemporain se souvient des 10 attentats, des appels au meurtre et des vociférations contre De Gaulle? Si vous me permettez un souvenir personnel, j'ai vu, parce que je marchais alors à ses côtés dans la rue, François Mitterrand, président de la République, se faire cracher dessus par un passant et rester un pavé vide. Alors vous me direz qu'un tyran s'expose au tyrannicide, c'est le risque du métier, on n'a rien sans rien. D'accord. Mais Henri IV, mais Kennedy, mais Olaf Palme en Suède. Un chef politique n'est grand que par moment, mais la haine qu'il inspire est à vie. Et c'est usant, la haine. Alors ne jetons pas la pierre à nos têtes molles. Le droit à la tranquillité, ça fait aussi partie des droits de l'homme. Aussi évoqué, mais là je vais être prudent parce que le sujet est litigieux, la montée en puissance du féminin. Sur tous les fronts, y compris d'ailleurs à l'extrême droite, où les anciennes forteresses de la virilité, jadis bottées et casquées, ont des femmes pour dirigeantes, en France comme en Allemagne. Le sentiment de l'histoire, jadis, se nourrissait de la peinture d'histoire, qui était la plus élevée dans la hiérarchie des beaux-arts au XIXe siècle. Elle est aujourd'hui passée de mode. Mais je voudrais vous rappeler que ce genre réputé était interdit au beau sexe. Madame Vigée Lebrun n'avait pas ses entrées dans la galerie des batailles créée par Louis-Philippe au château de Versailles. Autrement dit, la représentation du sabre et le canon était un monopole masculin. Tout comme le dieu des écritures, qui est un vieux monsieur barbu, et le père putatif des barbus. L'histoire, avec une grande hache, aime le sang et les sacrifices, et les femmes n'égorgent pas le mouton et n'élèvent pas l'hostie. Dans une boucherie, la dame tient la caisse, mais le mari tient le hachoir. Jeanne d'Arc, mise à part, qui dut se couper les cheveux pour monter à cheval, mieux vaut avoir joué au soldat de plomb plutôt qu'à la poupée pour se tailler une place dans la bataille d'hommes. Les victimes ont raison. Les saints et les héros, il faudra y regarder à deux fois. La disqualification des valeurs combattantes, et d'ailleurs, j'ajouterais, le déclassement social des militaires en Occident, hein, qui vaut bien le déclassement des professeurs. Il n'y a pas un seul militaire à l'Académie française, c'est sans précédent. Eh bien, ça traduit la féminisation des sensibilités au sein d'une culture unisexe. Et d'ailleurs, quelqu'un avec un livre en main dans le métro, c'est 9 fois sur 10 une quelqu'une. Alors, il est heureux que la Croix-Rouge ait désormais meilleure réputation que la Croix-Gammée et l'Étoile Rouge, je suis d'accord. Il est heureux que l'action d'éclat soit plutôt le sauvetage que le carnage, je suis d'accord. Mais enfin, que Prométhée cédait le pas à Gaïa, notre terre-mère, vulnérable et souffrante, ce n'est pas sans conséquence. La femme est l'avenir de l'homme, oui. Eh bien, ça peut se traduire aussi, la nature est l'avenir de l'histoire. Est-ce que l'éternel féminin mériterait son nom? La sortie de l'histoire par l'éternel féminin. Amour, vie privée, souffrance et joie des corps, ces thèmes dominent la production littéraire où les dames, il faut le dire, sont meilleures que les hommes. Et qui lit les romans, hormis nos consorts. L'espace intime contre le théâtre du monde. Frida Kahlo l'a emporté sur Diego Rivera. La première, Frida nous touche au cœur. Le second, Diego, avec ses grandes fresques historiques, nous tombe des yeux. D'ailleurs, il y a peu, de grandes âmes ont proposé de gommer les appels au meurtre qu'on trouve dans le champ de guerre de l'armée du Rhin, qu'on appelle la Marseillaise. Qu'un sang impur abrave nos sillons, et autres injonctions fort peu humanitaires, ça rend notre hymne national un peu déphasé. Hein. Quand domine le chanteur, les stars, le banquier et le capitaine d'industrie, il y a des lyrismes anachroniques, sinon choquants. Comme il y a des effectifs à réduire dans la fonction publique. En 1983, chez nous, il y avait 575 000 hommes dans les armées. Il y en a aujourd'hui 242 000. Il y en a 9 000 en moins par an. Et c'est un fait. C'est un fait que le fait d'armes n'est plus dans nos livres d'or. Avec la judiciarisation des actes de guerre, il se retrouve même dans le box. Et la raison en est, au fond, et qui peut s'en plaindre, que le seuil d'acceptabilité de la mort au combat a baissé en un siècle chez nous, Français, d'un facteur 100. Le 26 août 1914, 24 000 tués dans l'armée française, en une journée. Le président Poincaré, impavide, ne bouge pas de son bureau à l'Élysée. Aujourd'hui, 7 soldats tués en embuscade. C'est un drame national. Et le président de la République va sur place. Bon, tout ça, c'est pas de notre faute. Hein. On choisit pas sa date de naissance. Malraux, l'un des derniers, disait « Nous autres, nous sommes des gens dont l'histoire a traversé la route comme un char. Il est parfaitement normal que la génération dont le seul Panzer ait traversé la route et le char fleuri de la Gay Pride soit plus préoccupé par le taux de CO2 dans l'atmosphère que par l'évanescence de Marignan 1515 dans nos livres de classe. » C'est important, les livres de classe. Parce qu'il y a un lien de cause à effet entre l'enseignement et l'engagement. entre l'enseignement scolaire et l'engagement adulte, entre ce qu'on a lu ou entendu à l'école et ce qu'on voudrait bien refaire ou imiter à la sortie. D'ailleurs, je vous rappelle, Henri de Gaulle, le père de Charles, était professeur d'histoire et de lettres. Et son fils s'est dit redevable à ce professeur d'énergie, je cite, de sa foi en la France. Elle a grandi en même temps que moi dans le milieu où je suis né. Mon père, homme de pensée, de culture, de tradition, était imprégné du sentiment de la dignité de la France. Il m'en a découvert l'histoire, écrit Charles de Gaulle. Et rappelez-vous, c'est quand on a introduit en 1769 au collège Louis-le-Grand l'histoire comme discipline qu'ont été formés les hommes de 89. Une révolution, comme le dit Peggy, c'est un reculement de tradition. L'appel d'une tradition moins parfaite à une tradition plus parfaite. Alors vous comprenez que c'est une sage précaution pour l'ordre établi que de réduire les heures consacrées à l'histoire dans les écoles, et notamment à l'histoire de la Révolution française. Celui dont on parle, le gestionnaire dynamique, équitable et innovant, ça va ensemble, dynamique, équitable et innovant, a fait du mot citoyen un qualificatif passe-partout pour qu'il cesse d'être un sujet incommode. Et lui, ce gestionnaire, il rêve d'une jeunesse gavée d'économie, sans référence intempestive ni souvenir incongru. C'est bien vu, vous savez, parce qu'une révolution, ce n'est jamais qu'une nostalgie qui prend les armes. Sans la République romaine, pas de Révolution française. Sans 93, pas de Commune de Paris. Sans Commune de Paris, pas d'octobre à Moscou, etc., etc. Évidemment, il y a un revers de la médaille. Parce que sans la Rome antique, Napoléon n'aurait jamais percé sous Bonaparte. Il n'aurait jamais été consul, puis empereur. Renan a beau nous dire qu'il faut de l'oubli pour faire une nation, point trop n'en faut, et a trop secoué le noble joug du passé, on finit par se priver de tout désir d'avenir. Puisque tout recommence toujours, lâche un jour de Gaulle en pleine crise d'optimisme, parce que ça lui arrivait des crises d'optimisme. Ce que j'ai fait sera tôt ou tard une source d'ardeur nouvelle après que j'aurai disparu. Jaurès aurait pu dire la même chose. Parce que quand on nous ôte la mémoire, on nous ôte l'envie de recommencer. Et curieusement, c'est ce ressourcement propulsif dans le révolu qui permet tous les recommencements et s'est jugé aujourd'hui réactionnaire. Et le présentisme amnésique qui produit le surplace est jugé progressiste. Bon, c'est assez drôle et un peu triste. Et voilà donc que le temps qu'il fait a succédé au temps qui passe. Le réchauffement climatique renvoie dans ses buts l'histoire épopée, réduite, je cite, à ces splendides horreurs qu'on appelle la gloire. Voilà en tout cas une corde à notre lyre nationale qui s'est cassée. Et j'ajoute, pour notre bonheur. Malheur aux peuples qui ont besoin de héros, disait Bertolt Brecht. Il n'avait pas tort, hein. Il n'avait pas tort parce que les héros sont soit des massacreurs, soit des massacrés. Et les deux ensemble, plus souvent. Alors, ce qu'on appelle avec des roulements d'yeux la guerre contre le terrorisme, ça n'appelle de notre part ni levée en masse, ni sacrifice volontaire. Ça appelle de bons ordinateurs et de valeureux spécialistes de la filoche. Rien qui ressemble en tout cas aux poilus ou aux soldats de l'an 2. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Pour plusieurs raisons. D'abord, comme disait Chateaubriand, l'ambition dont on n'a pas les moyens est un crime. Ensuite, celui qui veut faire l'histoire, il fait jamais l'histoire qu'il veut. À preuve, les hommes de 89 qui ont fini par instaurer l'Empire et restaurer la puissance de l'État qu'ils souhaitaient abolir. Alors c'est vrai que l'obsédé des sondages, le bouchon sur l'eau d'aujourd'hui, le domestique des journalistes, il s'évite ses retours de bâton parce qu'il se contente, comme disait Beckett, de bricoler dans l'incurable. Et on pourrait presque le remercier au fond de nous mettre à l'abri des toquets qui envahissent l'espace public dès qu'il s'y fait une brèche un peu prometteuse. Et puis je vais vous dire, rentrer dans l'arène des bras de fer entre puissances, cela oblige à serrer les rangs. Et ça, c'est interdit par l'individualisme régnant, qui préfère battre sa coulpe que battre tambour. Parce que ne nous le cachons pas, dès qu'un pays relève la tête pour jouer sa partie sur l'échiquier international, chaque habitant est sommé de baisser la sienne, sa tête à lui, parce que l'orgueil national, c'est aussi une somme d'humiliations individuelles. Autrement dit, le chacun pour soi à tous les niveaux, ça ruine le projet d'union sacrée et ça ruine même l'idée d'un gouvernement de salut public. Bon. Et au fond, est-ce qu'au lieu de pleurnicher sur la fin de notre puissance impériale, est-ce que nous n'aurions pas plutôt lieu de célébrer notre adieu à Austerlitz et à Verdun, qui est aussi, rappelons-le, un adieu à Waterloo, à Dien Bien Phu et à la bataille d'Alger. Alors, adieu les reîtres et les Machiavel, bienvenue les French Doctors. L'histoire est tragique et nous voulons de la morale. C'est pas compatible. D'où une redistribution des cartes entre les diverses disciplines que j'évoquais au début. Les philosophies de l'histoire sont au piquet, hein, pour cause d'idéologie. Bon. L'égo-histoire, par contre, se porte bien. Et c'est tout naturel quand le souci de soi l'emporte sur le souci du « nous », terrain abandonné aux idéologues. Disons, si vous voulez, que le Collège de France se porte mieux que l'Histoire de France, et le Puy du Fou encore mieux que le Collège. De là, une nouvelle économie de la conscience historique. Mais vous savez, chaque époque, elle a son anxiété. Et je dirais que chaque médiasphère, chaque milieu de communication a son chronomètre. Un grand dessin, c'est toujours un dessin à long terme. Et le court-termisme d'une époque de zapping et de flash ne voit guère plus loin que la prochaine présidentielle. Et nous avons une telle addiction aux breaking news que tout ce qui traîne en longueur et vient du fond des âges, ça plonge dans le noir. Et nous aurons donc, nous sauterons à pieds joints du 20h à l'anthropocène, du fait divers aux pulsations cosmiques. Disons, le temps géophysique, celui qui décide du niveau de la mer et des calottes glaciaires, n'est plus à l'échelle de nos pauvres destinées, celle des cultures et des nations. Sans compter que l'adoucissement et l'allongement de l'espérance de vie, ça rend un peu déprimant les monuments aux morts. Et ça expédie les cimetières en banlieue. La mort devient une indécence. Et ce que la puissance publique perd en autorité, ça se regagne en agrément personnel. Vous saviez ce que disait Stendhal ? À Boston et Venise, disait-il, les gens vivent d'autant plus heureux que le gouvernement est plus déplorable. Alors, nous n'avons pas à nous plaindre. Les seules calamités envisageables aujourd'hui sont des catastrophes naturelles et industrielles. La politique n'est plus vraiment une aventure. C'est un cabotage dans ce que Mauriac appelait les clapotis du quotidien. Alors, pas de pessimisme, s'il vous plaît. Cette prise de congé n'est pas nécessairement une fin de partie. Et Beckett n'est pas nécessairement le successeur de Malraux. On peut s'inventer d'autres antidépresseurs que des guerres civiles et des croisades pour se dégourdir les jambes. On peut habiter le monde en poète et non en prophète. On peut habiter le monde en voyageant les yeux ouverts et non en halluciné, plus ou moins dépité. On peut même trouver du merveilleux dans l'usage du monde tel qu'il est, non tel qu'il devrait être. Et on peut partir sur les routes dans une guimbarde, avec Nicolas Bouvier, par exemple. Disons que, c'est vrai, Alexandre Dumas est tombé au fond du Panthéon, oui, mais Jules Verne remonte de la cave. Et l'histoire géo renaît sous nos yeux en géo-histoire. Les priorités s'inversent, la géographie avant l'histoire. En tout cas, qui peut encore croire qu'un autre monde nous attend demain, un nouveau départ au bout du chemin de nos peines, un événement qui remettrait le calendrier à zéro? C'était la promesse chrétienne et la promesse marxiste. Non, l'homme nouveau n'est plus sous les crânes. Il est aux archives ou dans les sacristies. Mais cela n'empêchera personne de vivre, comme le recommandait Scott Fitzgerald, avec deux idées contradictoires. À savoir que les choses sont sans espoir et qu'on doit faire l'impossible pour les changer. Quitte à se placer, tradition oblige, du côté des humiliés et des perdants, ce qui exige d'ailleurs de bien tenir son information à jour, car la distribution des rôles, elle n'est pas gravée dans le marbre. Aucun peuple n'est élu à vie. Aucun peuple n'est damné ad vitam aeternam. Les rôles s'échangent, et même assez vite. Et les dominés du jour en feront baver demain à leurs dominateurs. Pour l'heure, se battre contre la loi du plus fort, sans attendre un sauveur, sans attendre la société sans classe et sans État, cela exige, oui, un petit peu d'abnégation. Mais on peut en faire une question d'amour propre, voire même de salut public autant que personnel. Tant il est vrai que l'éclipse de ce que j'appellerais l'homo historicus, l'homme historique, faire monter un peu partout à la surface l'homme zoologique, celui qui n'a pas de surmoi et qui se conduit comme un porc. Sauvegarder ce que notre héritage a de plus civilisé, devant la montée du porc, ce ne sera pas une mince affaire. Il y a du pain sur la planche pour qui, tout éloigné qu'il soit des affaires publiques, voudrait tout de même continuer de vivre dans une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Indivisible, laïque, démocratique et sociale. Oui, je parle à l'échelle locale, bien sûr. C'est un peu étriqué, vous allez me dire. Bon, enfin, c'est bien connu. Chacun parle pour son sein et voit midi à sa montre. À chaque intervenant, son terroir, sa nostalgie et son combat pour l'avenir. Je vous remercie.
C'était Allons au fait, une émission proposée par Régis Debray, réalisation Rafik Zénine. Réécoute et podcast sur la page de l'émission sur le site de France Culture.